Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler d'un des programmes télé les plus suivis chaque année dans le monde, l'Eurovision.
Oui, l'Eurovision fait plus d'audience que le Super Bowl, par exemple. L'année dernière, il y a eu 166 millions de personnes qui ont regardé ce truc-là, quand même. Mais cette année, ça pourrait être un peu moins, puisque seuls 35 pays participeront à l'émission. On n'avait pas vu ça depuis 2005.
Vous le savez peut-être, le concours n'est pas strictement européen. D'ailleurs, il est regardé partout dans le monde. Et cette année encore, des pays assez éloignés de l'Union européenne pourront participer, comme par exemple l'Azerbaïdjan, l'Australie ou bien sûr Israël.
Cette année, c'est l'artiste Noam Betham qui doit concourir pour l'État hébreu. D'autres artistes de l'édition 2026 expliquent ne pas vouloir de boycott.
Il y a tellement de mauvaises choses dans le monde et nous ne devons pas les ignorer. Mais je pense que la scène de l'Eurovision n'est pas le bon endroit pour discuter de politique parce que c'est à propos de la musique. Il s'agit de se rassembler, de paix et d'amour. Et la musique doit connecter les gens.
Et oui, l'Eurovision, c'est la paix et l'amour. Et son slogan d'ailleurs, c'est « United by Music ». Unis par la musique.
Oui, mais est-ce qu'on a vraiment envie de s'unir par la musique avec n'importe quel pays, n'importe comment? C'est toute la question.
L'Union européenne de radio-télévision qui organise l'Eurovision a annoncé qu'une large majorité de ses membres a estimé qu'un vote pour remettre en question la participation d'Israël n'était pas nécessaire. Dans la foulée, les diffuseurs espagnols, slovènes, néerlandais et irlandais ont annoncé leur retrait de l'édition 2026 après avoir demandé l'exclusion d'Israël sur fond de guerre à Gaza.
Et sur fond de pas mal d'autres trucs, hein, ça commence à devenir compliqué de mettre dans la même phrase Israël et paix et amour. Je crois qu'avec Israël, on n'a pas forcément le même sens de la fête.
Non, je vous propose de regarder les images de l'anniversaire il y a 2 semaines du ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir.
La pâtisserie, offerte par son épouse, était décorée d'un dessin représentant un nœud coulant. Le symbole était accompagné de l'inscription « Mazel Tov au ministre Ben-Gvir, parfois les rêves deviennent réalité ».
Le rêve devenu réalité, là, c'est une loi adoptée par le Parlement israélien le 30 mars qui instaure la peine de mort pour les terroristes, une peine de mort qui va donc s'appliquer y compris dans les territoires occupés et donc principalement sur des Palestiniens.
Et moi, je mettrais dans les valeurs de l'Europe, pas de peine de mort. Hein. Il n'y a pas de pays de l'Union européenne dans lequel on pratique la peine de mort, ça n'existe pas.
Alors, il y a encore la Biélorussie qui l'applique sur le continent, mais elle a été expulsée de l'Eurovision en 2021.
Durant les mois précédant cette sanction, le pays avait été secoué par d'importantes manifestations contre la réélection de Loukachenko, un proche du Kremlin. La répression avait été féroce et la candidate d'opposition avait fini par choisir l'exil.
Après plusieurs heures sans nouvelles de la candidate, le ministre des Affaires étrangères lituanien a indiqué ce mardi matin que Svetlana Tikhanovskaya était venue dans son pays et qu'elle était en sécurité. À l'étranger, la Commission européenne, Paris, Berlin et Londres ont condamné la répression. Varsovie a demandé un sommet de l'UE consacré au sujet.
Et le pays avait été exclu de l'Eurovision pour avoir proposé des chansons un petit peu trop pro-régime, des chansons qui faisaient l'éloge de l'ordre et de l'autorité.
Ils plaisantent pas à l'Eurovision.
L'année d'après, c'est la Russie qui a été exclue, parce qu'elle venait d'attaquer l'Ukraine, quand même. Poutine, qui a l'habitude de dénoncer l'Europe décadente, a donc dénoncé l'Eurovision décadent, mais il n'en est pas resté là. Et en septembre dernier, s'est tenue à Moscou une sorte de contre-Eurovision, l'Intervision.
Un concours musical né il y a 60 ans, vestige de l'URSS, que Vladimir Poutine a ressuscité hier soir.
Le respect des valeurs traditionnelles et des différentes cultures est par essence l'idée principale du concours et inspire ses participants à atteindre des sommets de créativité.
Après le concours, Poutine a déclaré que la moitié de l'humanité avait regardé son émission, c'est fort peu probable. Même à Moscou, il avait fallu payer le public 60 euros par personne pour remplir la salle de 11 000 places qui avait été prévue pour l'événement.
Ah oui, on peut pas dire que c'était un franc succès.
Non.
Aucun membre de l'Union européenne n'a envoyé de participants, mais tout de même 21 pays invités dans ce concours. Parmi eux, des anciens de l'URSS, des partenaires des BRICS, et plus surprenant, une chanteuse australienne devait représenter les États-Unis. Elle a annulé quelques minutes avant.
En 2014, Poutine avait averti qu'il risquait de relancer ce concours. Mais à ce moment-là, la Russie était menacée par l'Union européenne de sanctions pour son invasion de la Crimée.
Mais oui, mais surtout en 2014, c'était la victoire de l'Autriche.
Vous vous en souvenez sans doute, puisque cette victoire a fait de l'artiste drag Conchita Wurst la drague la plus connue d'Europe.
Pour ma génération, l'Autriche, c'était le pays de Jörg Haider, le leader d'extrême droite qui était rentré au gouvernement en 1999, au moment où toutes les autres formations d'extrême droite en Europe étaient à la peine.
Bah ouais, mais là, pour l'Eurovision, ils ont été woke.
Et donc, la victoire à l'Eurovision, puis le fait de l'avoir accueillie en 2015, a permis à l'Autriche d'avoir cette espèce donc, de transfert d'image sur une idée d'ouverture. Donc on a eu l'impression, à la fois en Europe et aussi en Autriche, qui avait une vraie, voilà, une ouverture à la tolérance, la diversité, aux droits de la communauté LGBTQIA+. Sauf qu'en réalité, la législation était quand même bien en retard.
Oui, donc c'était aussi du pinkwashing, mais dans la foulée, les sociodémocrates autrichiens en ont profité pour proposer de nouveaux textes de loi en faveur du mariage pour les couples homosexuels, même de l'adoption.
Donc l'Eurovision peut avoir des conséquences politiques. Pour beaucoup de monde, c'est un événement qui est très politique.
L'Europe, ce n'est pas l'euro. L'Europe, c'est l'union de peuples qui croient à la liberté individuelle, qui reconnaît à chacun le droit de devenir ce qu'il a envie de devenir. Vous exprimez, par votre démarche artistique, parfaitement ce que d'autres avant nous ont voulu faire et que nous sommes en train de perdre, et qui s'appelle l'Europe, qui était un beau rêve, qui est un bien commun formidable. Et à ce titre-là, tout à fait personnellement, je vous en remercie.
Sauf que pour les organisateurs de l'Eurovision, l'Eurovision, c'est pas politique. Hein, c'est un concours de chant, donc on mélange pas tout. C'est même pour ça qu'ils avaient exclu la Biélorussie, hein, pour sa chanson pro-Loukachenko. Pas de politique dans mon télécrochet.
En 2008, c'était la Géorgie qui s'est fait taper sur les doigts pour avoir proposé une chanson anti-Poutine.
En français, nous ne voulons pas de Poutine. Le titre a été interdit par l'organisation de l'Eurovision, car trop politique.
Et en même temps, en 2008, l'Eurovision avait lieu à Moscou, ça explique.
Ouais, faut être pragmatique. C'est compliqué de voir ce qui est politique, ce qui n'est pas politique, donc on fait en fonction du contexte, mais à la base, le concours est apolitique.
On est face à un apolitisme et à une idéologie qu'on pourrait qualifier de molle ou d'utopie floue. Et donc en fait, pourquoi ? Parce qu'il faut que le règlement ou les valeurs soient suffisamment molle ou malléable ou consensuel pour que des pays aux idéologies, aux imaginaires très différents s'y retrouvent, et en même temps qu'il y ait quand même une plateforme de valeurs, mais encore une fois suffisamment molle et vague pour que les personnes s'y retrouvent et projettent ce qu'elles ont à projeter dessus.
Et pour que les organisateurs décident au cas par cas, voilà, selon le contexte. Parce que parfois il y en a qui ont eu le droit de faire des choses très politiques, en 2022 par exemple.
De la première à la dernière image. La guerre et ses souffrances sont omniprésentes. Comme si Kalouch Orchestra voulait faire de la chanson qui lui a permis de remporter l'Eurovision un hymne à la résistance. Dans la droite ligne Ukraine d'un concours de chant qui jamais de toute son histoire n'avait été si marqué par la situation internationale.
Et en effet, en 2022, quelques mois seulement après l'attaque à grande échelle des forces armées russes, le succès à l'Eurovision du groupe ukrainien envoyait deux messages. À Poutine, qui prétendait qu'il n'y avait pas de nation ukrainienne, l'Eurovision offrait le spectacle de tous ses drapeaux déployés et d'une vraie fierté nationale. Quant aux Ukrainiens eux-mêmes, cette victoire a pu leur donner le sentiment qu'ils étaient soutenus par les autres peuples européens au moment où ils en avaient le plus besoin.
S'il vous plaît, aidez l'Ukraine, Mariupol, aidez Azovstal maintenant.
Des mots et une victoire grâce au vote du public qui ont bouleversé les Ukrainiens présents dans la salle.
Nous avons vraiment le soutien de toute l'Europe et du monde entier. Nous ne sommes pas seuls. Merci à tous.
Et oui, parce qu'on peut voter à l'Eurovision. C'est peut-être pas politique, mais on peut voter. Et cette année, les gens, ils avaient voté de manière un petit peu politique pour envoyer un message politique.
Mais attention, cette année, les règles vont changer. Parce que l'année dernière, le vote du public avait posé quelques questions. Yuval Raphaël, la candidate israélienne, était arrivée deuxième du concours avec un écart considérable entre les points attribués par les jurys et ceux attribués par le vote du public qui s'était massivement mobilisé. La présence de cette survivante du 7 octobre était déjà contestée, comme l'avait été celle d'Eden Golan l'année précédente. En plein génocide à Gaza, les organisateurs de l'Eurovision avaient dû masquer artificiellement les huées du public lors de leur passage.
En 2024, Eden Golan avait même dû remanier les paroles de sa chanson, une chanson qui faisait à la base explicitement référence au 7 octobre. L'organisation a jugé que c'était trop politique.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, il faut qu'on vous explique un petit peu comment ça marche l'Eurovision. Le concours Eurovision de la chanson n'est pas organisé par l'Union européenne, mais par une organisation internationale qui s'appelle l'Union européenne de radio-télévision. Ce ne sont pas des pays qui adhèrent à cette union, mais des télé- et radiodiffuseurs. En général, c'est le service public de chaque pays. Chez nous, c'est France Télé, France Média Monde et Radio France, par exemple. En Belgique, c'est la RTBF. Au Royaume-Uni, c'est la BBC, etc.
Donc l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision, n'est pas pilotée directement par l'Union Européenne, mais par les services publics de l'audiovisuel de tous ces petits pays. Des services publics qui peuvent être plus ou moins dépendants du pouvoir politique de chaque pays. En Israël, l'interlocuteur de l'UER, c'est la CAN, le service public israélien qui a adhéré à l'UER en 2017. Quand l'UER a demandé à la CAN de remanier les paroles de la chanson qu'Eden Golan devait chanter en 2024, la CAN a tout simplement refusé. La chaîne a fait savoir qu'elle préférait renoncer à participer au concours.
Sauf qu'Israël Herzog, le président israélien, est intervenu personnellement et a demandé à ce qu'on procède aux ajustements nécessaires.
Mais selon la BBC, le président a fait savoir que, en cette période particulière où ceux qui nous détestent cherchent à nous écarter et à boycotter l'État d'Israël, notre pays doit faire entendre sa voix avec fierté, la tête haute et hisser son drapeau à chaque tribune mondiale, surtout cette année.
Donc théoriquement, les pouvoirs politiques ne s'occupent pas de l'Eurovision, mais quand même on dirait que ça les préoccupe pas mal. Selon la RTBF, l'année dernière, c'est une agence gouvernementale israélienne qui aurait piloté une large campagne de publicité sur les réseaux sociaux pour inciter les votants à soutenir sa candidate. Celle-ci avait enregistré un petit message dans plein de langues. Voici ce qu'ont pu voir en pré-roll nos amis belges.
Bonjour à tous, votez pour New Day Will Rise.
Le spot diffusé la veille de la finale pouvait apparaître sur YouTube, sur des applis. Enfin, ils avaient mis le paquet, quoi. Et regardez, à la toute fin, il est même précisé qu'on peut voter jusqu'à 20 fois.
Et il y en a qui ont dû le faire parce que Yuval Raphaël, là, elle est arrivée en tête des votes du public. C'est de la triche un peu, non?
Ciao a tutti. Votate per New Day Will Rise.
En tout cas, les autres pays, ils ont trouvé que c'était abusé, hein, parce que le génocide à Gaza, ok, mais tricher à l'Eurovision, vous avez pas honte?
Cette année donc, l'UER a renforcé le poids du jury dans la note finale, a rappelé qu'on pouvait pas faire de grosses campagnes de propagande comme ça, et ils ont limité le vote du public à 10 voix maximum.
Voilà, enfin des sanctions. Et malgré ça, de nombreuses voix continuent de s'élever pour dénoncer la participation d'Israël au concours alors que la colonisation en Cisjordanie se poursuit et que le pays est en guerre contre le Liban dont il rase des villages entiers.
C'est désormais un collectif d'artistes dont le rappeur Macklemore, le groupe de trip-hop Massive Attack ou les Irlandais de Niqab qui appellent au boycott. Leur collectif, No Music for Genocide, conteste la participation d'un artiste israélien dans l'émission.
En tant que musicien et travailleur culturel, nous refusons que l'Eurovision soit utilisée pour blanchir et normaliser le génocide, le siège et l'occupation militaire brutale des Palestiniens par Israël.
Et donc cette année, il y a des pays qui vont boycotter l'Eurovision pour soutenir cette démarche. Évidemment, il y a l'Espagne, l'Irlande, des pays très pro-Palestine, puis il y a aussi les Pays-Bas et la Slovénie.
La Slovénie a carrément décidé de remplacer ce programme. Pendant les soirées où il y a l'Eurovision qui est diffusée, eux, en fait, ils vont diffuser Voices of Palestine, tout un tas de documentaires et de films qui sont des films et des documentaires palestiniens.
Pour faire un point sur le boycott, on a interrogé une militante pro-Palestine, Moni Ramoun, qui coordonne la campagne de la branche culture du mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, le FRAGBI. Ce qu'elle nous a raconté, c'est que dans ces pays, le boycott a été rendu possible parce qu'il y a eu des grosses mobilisations à la base, parfois même devant les sièges des télés nationales.
Et il y a des gens, ça les fait un peu chier parce qu'ils sont vraiment fans de l'Eurovision, mais ils soutiennent la démarche et ils disent « bah c'est pas grave, à ce moment-là, faut faire des contre-soirées, une sorte de contre-programmation ».
Puisque l'Eurovision refuse d'exclure un pays qui commet un génocide et mène des guerres, c'est une bonne chose que l'Espagne se retire pour protester.
Puisque d'autres pays comme la Russie sont exclus de l'Eurovision en raison de guerres, alors il me semble juste de se retirer du concours si Israël qui commet un génocide contre les Palestiniens y est représenté.
L'objet de la campagne, c'est que les gens boycottent même le programme à la télévision. C'est-à-dire qu'il va y avoir un programme qui va être diffusé le 12 mai, le 14 mai et le 16 mai. C'est des dates qui coïncident en plus avec la commémoration de la Nakba, la grande catastrophe pour les Palestiniens où ils ont été massacrés, chassés de la Palestine, etc. Et donc pour nous, il y a un enjeu à organiser des contre-soirées Eurovision un peu partout dans le pays.
Vous l'avez compris, France Télévisions ne boycottera rien du tout. Hein. En France, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, a été très clair. Jamais la France ne s'engagera dans la voie du boycott d'un peuple, de ses artistes, de ses intellectuels.
La position de la France est assez proche de celle qu'a soutenue le chancelier allemand Friedrich Merz.
Pour le chancelier, la participation d'Israël ne devrait même pas être remise en question.
Das würde ich befürworten. Ich halte es für einen Skandal, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Israël gehört dazu.
L'Allemagne fait partie des 5 grands de l'Eurovision, aux côtés de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et de l'Espagne, qui sont les plus gros contributeurs financiers du concours.
En plus de la participation des Big Five moins 1, l'Eurovision peut compter sur quelques sponsors, et l'un d'entre eux fait également polémique, puisqu'il s'agit de Moroccan Oil, une gamme de produits de beauté prisée aux États-Unis et dont le nom évoque le Maroc, mais qui est pourtant une entreprise israélienne. Alors, on ne connaît pas les clauses de ce contrat de sponsoring, on ne sait pas qui a menacé de quoi, mais de toute façon, il n'y avait pas besoin, puisqu'Israël pouvait compter sur ses alliés, comme par exemple Jean-Noël Barrot, qui a déclaré « Je me réjouis que l'Eurovision n'ait pas cédé aux pressions et que la France ait contribué à empêcher un boycott d'Israël. »
Il est quand même de plus en plus politique, ce concours apolitique. Mais en fait, il l'est depuis le début. Et ce n'est pas la première fois que des régimes peu soucieux des droits de l'homme viennent y faire leur promo.
Dès 1969, l'Autriche a refusé de se rendre en Espagne, qui accueillait le concours, pour protester contre la dictature de Franco. À l'époque, ce régime investissait largement dans l'Eurovision pour améliorer son image.
Et là, pour l'État d'Israël, on comprend les enjeux. En s'affichant au milieu des nations européennes, il clame son appartenance au camp des démocraties, alors qu'il est un État d'apartheid, et il s'invite même dans une fête progressiste qui, ces dernières années, s'est affirmée comme une fête résolument queer.
L'Eurovision est un événement iconique, marquant pour la communauté LGBTQ+. C'est un espace où chacun et chacune peut exprimer sa singularité et les artistes queer l'ont très bien compris. Et puis, par-dessus tout, l'Eurovision, c'est un divertissement aussi, avec de la flamboyance, une esthétique camp.
Ça va être l'occasion de revenir sur le mot pinkwashing qu'on a employé un petit peu plus tôt. Le pinkwashing, c'est quand un État, une organisation, une entreprise se repeint en queer, si vous voulez, pour avoir l'air plus progressiste qu'elle n'est.
Et ça fait un moment qu'Israël fait ça pour le coup. En 2017, le journaliste Jean Stern a d'ailleurs sur ce sujet publié un livre, Mirage gay à Tel Aviv, enquête sur le pinkwashing. À cette époque, il expliquait que pour Israël, l'opération avait été un franc succès, mais en février 2026, à l'occasion d'une conférence à Calais, il expliquait à son auditoire que cette stratégie avait peut-être atteint sa limite.
Je dirais que c'était un grand succès, mais aujourd'hui c'est un grand échec, parce que d'abord, Israël ne fait plus illusion. Et aujourd'hui, les queers à travers le monde, les collectifs queers à travers le monde sont à la pointe du combat contre Israël.
Jean Stern est lui-même gay, lui-même juif, et comme beaucoup de militants et militantes partout dans le monde, il refuse de tomber dans le piège que tend l'armée israélienne quand elle nous offre ce genre de photos.
Et nous, on pense qu'il faut continuer à défendre la Palestine, et nous, on pense qu'aujourd'hui, la manière dont Israël a utilisé les gays et la manière dont Israël a parlé en notre nom, ça c'est terminé. Et donc, ce qui a été un succès d'Israël jusqu'en, on va dire, 2023, est aujourd'hui devenu un échec.
Et donc, si l'Eurovision est bel et bien le rendez-vous LGBTQIA+, qu'on s'imagine, il est probable que cette année encore, Israël va se faire copieusement huer.
Surtout que dans une conférence de presse, l'organisation a expliqué qu'en 2026, elle ne va plus couvrir les huées, les sifflements. On va tout bien entendre.
Oui, alors on va rien entendre du tout, puisqu'on va boycotter.
Et oui, parce qu'un des arguments des soutiens de la participation de la France à l'Eurovision, c'est qu'il faut y être parce que le concours fait d'énormes audiences.
Le projet, là, tout de suite, c'est que cette année, il y ait un effondrement de l'audimat de ce programme et que l'année prochaine, cet argument ne soit plus existant.
Donc voilà, des audiences en berne, ce serait déjà un message envoyé à nos dirigeants, à Jean-Noël Barrot, à Delphine Ernotte.
Oui, ce serait bien qu'ils entendent, d'autant plus que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, c'est aussi la présidente de l'UER, donc elle a aussi des responsabilités là-dedans. Voilà.
Allez, on va laisser le mot de la fin à Monira.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme d'impunité totale d'Israël et qu'il faut couper, c'est-à-dire que la mobilisation, elle est vraiment le fait de briser l'impunité d'Israël, porter le récit palestinien et rappeler que, en fait, les crimes contre les Palestiniens ne peuvent pas rester impunis et on a tous une responsabilité, une mobilisation à mener dans ce sens-là et pour la libération de la Palestine.
Voilà, pas mieux. Donc, on se retrouve dimanche, dans 2 semaines.